Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi une joie abondante d'être devant vous ce dimanche. Nous voilà déjà à notre troisième et dernière prédication sur le livre d'Agée. Le prophète a exercé son ministère sur une période de 4 mois. Son premier oracle est daté du 29 août et ses deux derniers du 18 décembre. Son ministère est extrêmement court. C'est un peu comme si, justement, le 18 décembre, à la fête de Noël, je vous annonçais que mon ministère était fini. Alors, je ne le pense pas, mais Agée a su se retirer. Et nous allons voir. L'homme de Dieu s'adresse à un peuple découragé. Le peuple n'en peut plus des oppositions. Et ce découragement a mené à l'arrêt des travaux. La reconstruction du temple s'est arrêtée. Le propre du découragement est de nous pousser à l'abandon, de mettre un terme à nos projets, aux projets de Dieu. Ma première prédication lançait cet appel. Ne laissons pas le découragement être un obstacle dans la réalisation du projet divin. La difficulté n'est pas un indicateur fiable de la volonté divine. N'abandonnons pas, mais continuons. Et avec la deuxième prédication, après l'opposition, nous avons discerné une deuxième source de découragement, la nostalgie. Avec cet appel, ne nous accrochons pas à nos souvenirs de l'ancien temple, parce que le nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien. Le nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien. Et de la même façon que Jésus annonce à ses disciples qu'ils feront de plus grandes œuvres que lui, nous avançons de gloire en gloire. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons aux deux derniers oracles d'Agée. Nous allons parler de pureté et d'impureté. Et nous lisons en Agée 2, les versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes ? Les prêtres répondirent non. Agée dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agée reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien porté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Le 18 décembre, c'est-à-dire le 24e jour du 9e mois de la deuxième année de Darius, ce jour correspond à la reprise des travaux. Il s'agit du message pour l'inauguration de la reconstruction du temple. Et c'est à cette occasion que Haggé prononce cet oracle. Et comme nous venons de le lire, cet oracle se termine, ou plutôt la première partie se termine par cette phrase « C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel, c'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. » Nous y voici, enfin, après 16 ans, ce jour est là. Le peuple se remet enfin au travail, et voilà le message d'Haggé, vous êtes tous impurs. Quel message réjouissant, quel encouragement. Vous êtes tous impurs. Ils se mettent au boulot, et Haggé leur dit qu'ils sont impurs. Et ce matin, je vous propose d'aller découvrir que ce message, en fait, n'est pas hors sujet. Que ce message sur la pureté et l'impureté n'est pas à côté de la plaque. Mais qu'est-ce donc que cet oracle annonce-t-il au peuple et quel est son message pour nous aujourd'hui ? Au travers de ce début d'oracle, Haggé formule deux questions pour les spécialistes et pour les spécialistes de la loi. Et il ne s'agit pas de questions pièges. La réponse est toujours unanime. Et ces deux questions nous enseignent de lois concernant la pureté et l'impureté. Tout d'abord, la sainteté est hermétique. La sainteté, la consécration, ne se transmet pas. Et deuxièmement, l'impureté, elle, est contagieuse. C'est-à-dire qu'un simple contact suffit à transmettre l'impureté, à souiller et à rendre impur. Et pour expliquer un peu mon propos, je vais employer l'image de pizza. Donc imaginez que vous ayez une pizza margherita, qu'on dira que c'est une pizza qui n'est ni sainte ni impure. Elle est juste normale. Et qu'à ses côtés, vous ayez une pizza jambon de Parme avec rucola, petit copeau de parmesan. Si vous frottez les deux pizzas ensemble, ça ne permet pas au jambon cru de tomber sur la pizza margherita et de la rendre sainte. Donc, la pizza au jambon de Parme qui est sainte et la pizza margherita qui est juste pure, la sainteté ne se transmet pas. Par contre, si vous avez une pizza margherita et une pizza à l'ananas qui est impure, et que vous frottez les deux pizzas ensemble, il y a une chance pour que du jus d'ananas tombe sur la pizza margherita et la rendre impure. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise cette image, effectivement, comme nous avons prévu de commander des pizzas après le culte, il s'agit d'un avertissement pastoral, ne commandez pas de pizza à l'ananas. L'impureté est contagieuse. Si l'impureté est contagieuse, comment un peuple impur peut-il construire un temple, un lieu sacré? Puisque tout le monde est impur, si quelqu'un touche une pierre, si quelqu'un touche un ustensile, forcément le mur ou l'objet devient impur. Même chose pour les sacrifices. Si je suis impur et que je touche un agneau qui doit être sacrifié, cet agneau devient impur et ne peut plus être sacrifié à Dieu. Un peuple impur ne peut pas bâtir un temple pour Dieu. Et donc, ils sont face à une impossibilité. Et je me permets de dire que cette impossibilité annonce d'ores et déjà la nécessité d'une intervention divine, de l'incarnation, de l'incursion de Jésus-Christ. Il faut que Dieu lui-même bâtisse le temple. Donc l'impureté est contagieuse, la sainteté est hermétique. Et si la sainteté est hermétique, en me posant la question de comment devenir saint, je comprends que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en reconstruisant le temple que je deviens saint. Ce n'est pas en touchant, en œuvrant pour le projet de Dieu que je deviens saint. La sainteté est hermétique. Et ce n'est pas au contact du temple, en le bâtissant, en assistant au culte, en priant, en louant, que je suis saint. Et je me souviens, il y a quelques années, au moment où j'ai rencontré Jésus, j'avais 15 ans, et j'ai commencé à aller régulièrement au groupe de jeunes. Et j'ai vite remarqué que j'étais pas quelqu'un de parfait. Alors, je le savais déjà avant. Mais je sais pas pourquoi, je me disais dans ma tête, là je suis pas parfait, mais le jour où je deviendrai responsable, ce jour-là, je serai quelqu'un de bien. Malheureusement, ce jour-là, le jour où je suis devenu responsable, je n'ai pas changé. Je me suis donc dit, ah, c'est pas encore le bon étage. Et donc, le jour où je serai responsable jeunesse, animateur jeunesse, je vais devenir quelqu'un de bien. Malheureusement, ce jour-là également, je n'ai pas changé. Je suis resté le même. Et d'ailleurs, ce 1er septembre, en entrant dans le ministère pastoral, je ne me suis pas réveillé le matin comme un papillon qui sortirait de son cocon, rempli de toute l'infinité de l'amour et de la bonté de Dieu. Non, mon ministère, ce que je fais, ne me purifie pas. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais. Ce n'est pas en œuvrant pour Dieu que je deviens une personne sainte. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais Agé a bien compris cette vérité. Une fois que sa mission a été remplie, recommencer la reconstruction du temple, ce 18 septembre, c'est la dernière fois qu'Agé prend la parole. Sa mission est terminée, il se retire et il met en avant une autre personne, Zorobabel. Si Agé voyait dans son ministère un moyen de purification, jamais il n'aurait pu se retirer. parce qu'il aurait perdu sa façon d'être purifié. Donc nous voilà face à un message extrêmement encourageant. Le peuple recommence la construction du temple, et non seulement ils ne peuvent pas l'accomplir, parce qu'ils sont impurs, mais même le fait de bâtir ce temple n'est pas suffisant à les purifier. Mais du coup, comment devenir saint ? Comment être purifié ? Comment un peuple impur peut-il construire un temple sacré ? Alors c'est plutôt pratique, mais ces deux questions possèdent la même réponse, par la grâce de Dieu. Et nous lisons au verset 19, « Y avait-il encore de la semence dans le grenier, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier ?» n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Dès aujourd'hui, je bénirai. Le peuple n'a encore rien fait. Il n'a pas offert de sacrifice. Le temple n'est pas construit. Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas loué. Et pourtant, dès aujourd'hui, Dieu bénit. Cette phrase sort absolument de nulle part. D'ailleurs, certains spécialistes trouvent qu'elle sort tellement de nulle part que ça doit être un ajout. C'est quelqu'un qui a ajouté cette phrase. Il n'y a rien qui explique cette bénédiction, mis à part la grâce de Dieu. Et on utilise tout au long de l'histoire, dans notre Bible, il y a ce qu'on appelle des interventions divines. Et on va même plus loin, des manifestations de Dieu, qu'on appelle des théophanies. C'est-à-dire que Dieu apparaît. On a également ce qu'on appelle des christophanies, c'est-à-dire que Jésus, ou une figure du Christ, apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Ici, nous sommes face à ce que j'appelle une charistophanie, c'est-à-dire à une manifestation et une démonstration de la grâce de Dieu. Tout à coup, la grâce de Dieu fait irruption dans notre récit, dès aujourd'hui. De la même manière, il y a 2000 ans, Jésus a fait irruption au sein de notre monde, au sein de notre humanité, et il a conservé sa sainteté jusqu'au bout, et en 3 jours, il a construit un nouveau temple saint et parfait. Au travers de sa mort et de sa résurrection, Jésus est venu accomplir la loi. Et il est venu résoudre notre problème de loi. Et nous lisons en Romains 8, les versets 3 à 4, « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Ce qui était impossible à la loi, et dans notre cas la loi sacerdotale, Dieu l'a fait. Dans son livre « Dangerous Calling », Paul David Tripp, un pasteur américain, qui est aussi un peu un pasteur des pasteurs, écrit sur les raisons de la démission des pasteurs. En effet, les statistiques sont assez affolantes. Sur les 10 premières années, 90% des ministères arrêtent et quittent le service de l'Église. Et il écrit sur les raisons qu'il identifie « Sure, the details are unique, but the same disconnect between the public pastoral persona and the private man is there in many, many pastors' lives. la raison principale du découragement qu'il identifie chez les pasteurs, c'est l'incohérence entre la personne publique et la personne privée. Et dans son cas, il témoigne qu'alors qu'il était doux comme un agneau à l'église, qu'il était rempli de grâce et de bonté, il lui arrivait d'avoir des excès de colère à la maison face à sa femme. Paul Tripp nous avertit dans son livre, l'incohérence aussi est une source de découragement. Dieu nous appelle à être un. Je ne peux pas être une personne différente à l'église et à la maison ou au travail. Nous avons été créés un par Dieu. Et ce besoin de cohérence, en quelque sorte de légitimité, nous permet de nous réapproprier ces catégories de sainteté et d'impureté. En effet, ces catégories semblent bien dépassées et ringardes. Je ne peux pas accomplir des œuvres saintes si je me considère comme impur. Et lorsque je crois que mon ministère est ce qu'il me purifie, alors je peux me fourvoyer. Je peux croire que c'est pas grave qui je suis à la maison. Il suffit d'être quelqu'un de bien à l'église, de donner beaucoup à l'église, et ça résoudra tous mes problèmes. Et ça me purifiera. Non. Mon œuvre n'est pas ce qui vient résoudre ce point. Jésus est celui qui résout cette incohérence. Jésus est celui qui a porté notre péché. Jésus est celui qui est resté pur jusqu'à la fin. Et il a bâti un nouveau temple dans lequel nous pouvons nous adresser à Dieu. Dès aujourd'hui, je bénirai. Cette grâce que les compatriotes d'Agé expérimentent n'était que les prémices de la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Dieu a fait ce que nous ne pouvions pas. Ce message d'Agé est en fait un message de bénédiction. Il s'adresse non seulement aux individus, mais également à notre communauté. Dès aujourd'hui, Dieu bénit. La bénédiction de Dieu n'est ni pour hier, ni pour demain. Dieu veut te bénir, Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Et donc j'aimerais lancer cet appel. Recevez cette grâce de Dieu. Et pour recevoir cette grâce, il faut croire. De la même façon que pour recevoir l'amour de ma femme, par exemple, je dois croire lorsqu'elle me dit qu'elle m'aime. De la même façon, pour recevoir la grâce de Dieu, je dois croire qu'il me la donne, plutôt qu'il me l'a déjà donnée. Malgré notre imperfection, malgré le fait que nous ne soyons pas parfaits, Dieu fait grâce. Et je crois que Dieu veut construire non seulement dans ma vie, dans notre vie, mais Dieu veut aussi construire notre communauté. Et c'est pas grave si on n'est pas parfait. Parce que Dieu bénit. Je me permets quand même de souligner, c'est pas un appel à l'incohérence. Je ne vous appelle pas à être incohérent, à la maison, au travail ou à l'église. Non. Cette grâce de Dieu, ce que Jésus est venu donner, ce que Dieu a manifesté, est pour aujourd'hui. Et je crois que cette vérité, non seulement elle doit s'ancrer dans nos cœurs, mais elle doit nous faire pousser des cris de louange. Elle doit nous donner cette soif de crier à Dieu, de le chanter, de le louer, de l'adorer. Et dans cette même direction, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu très saint, trois fois saint. Tu connais mon cœur, tu connais mon quotidien, ma vie. Tu vois bien que de temps en temps, très rarement, je ne suis pas parfait, que nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, ma prière pour ce matin, c'est que là où l'impureté, le péché a abondé, ta grâce puisse surabonder. Seigneur, révèle-toi à nous. Donne-nous cette confiance, cette assurance que tu es à nos côtés et que tu es à nos côtés dans notre projet, dans notre construction. Seigneur, je veux te célébrer. Merci de cette grâce que tu m'as partagée en Jésus-Christ, cet amour dont tu nous as manifesté. Et ma prière, Seigneur, c'est que non seulement je sache recevoir cette grâce, mais que je puisse également la cultiver autour de moi. Aide-nous à cultiver cette grâce et que nous sachions la communiquer et la partager. Seigneur, sois élevé, tu es celui qui purifie nos cœurs, tu es celui qui a effacé notre péché. Que de gloire en gloire et de toute éternité, nous sachions en être les témoins. Amen.